Bonjour à tous. J'attends que tout le monde finisse de s'installer. Nous allons prier ensemble. Père, nous avons besoin de toi pour comprendre ta parole, pour être enseigné. J'ai besoin de toi pour parler ce matin. Bénis ces moments de partage, bénis ta parole, que tu sois seul glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc on en arrive maintenant au dernier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, qui a été écrite par l'apôtre Paul, et on l'a vu, cette épître, elle parle beaucoup de l'Église du Seigneur. Il a été question des bénédictions que Dieu accorde à l'Église, de la grâce abondante qu'il renouvelle sans cesse pour elle, mais aussi du fait que les membres du corps doivent vivre dans la sainteté pour la santé du corps et pour ne pas déshonorer le Seigneur de l'Église. Et on voit que le Seigneur aime son Église et que l'Église doit aimer son Seigneur. Et le passage qui va occuper notre réflexion ce matin, c'est le chapitre 6 donc de cet épître aux Éphésiens, et nous allons lire les versets 10 à 24. Éphésiens 6, versets 10 à 24, dernier verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, et ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité, avec la foi, soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette lecture, mais on a lu des versets qui sont un peu étonnants, qui peuvent même être choquants d'un certain point de vue. C'est un passage de la Bible qui nous parle de combat, d'ennemis, de guerre, d'armes, de stratégie, de tactique, de défense. Et ce passage, il est tiré de l'épître qui parle de l'Église. Ce passage, il s'adresse à ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ, à des chrétiens. Et ces versets, ils sont à la fois étonnants et choquants parce que ils vont bousculer une certaine idée qu'on peut se faire de la vie chrétienne, celle d'une vie tranquille, confortable, prospère, un sourire aux lèvres en attendant le retour du Seigneur Jésus. Et on vient de lire des versets de la parole de Dieu qui font éclater cette conception de la vie chrétienne. Alors, je ne sais pas pour vous, mais Il y a des passages comme ça qui nous gênent. Par exemple, quand Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » On voit ça dans Matthieu 10. Ou encore quand il est écrit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça gêne. Ça met mal à l'aise. Et il faut reconnaître, personne n'aime sortir de la tranquillité, du confort, de la prospérité. Mais ces paroles que nous avons lues, elles sont finalement comme un coup de trompette pour nous réveiller, comme si le Seigneur disait « Aux armes !» Il nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu parce que c'est la guerre. » Alors on va voir ce matin de quel combat il s'agit, de quelles armes on dispose, et on va parler aussi des clés de la victoire, d'une clé en particulier de la victoire. Alors vous le savez comme moi, depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y en a eu des guerres. Et il y en a eu des guerres de religion. Dans une guerre de religion, il y a les partisans d'une doctrine qui affrontent les partisans d'une autre doctrine pour essayer de les anéantir et avoir la domination sur le monde. Et aujourd'hui encore, dans notre monde, on dit que notre monde est civilisé, mais on voit encore des guerres comme ça qui font rage, des guerres de religion. Mais ce n'est pas une guerre de religion que Dieu nous appelle à mener. Ce n'est pas une croisade pour remporter une domination, quelque ordre que ce soit. C'est un conflit qui est spirituel. Et dans ce conflit, il ne faut surtout pas se tromper d'ennemi. C'est la première chose que nous dit la parole de Dieu. Prendre les armes contre le bon ennemi, le diable et les puissances célestes. Parce qu'il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, il y a un monde invisible, invisible à nos yeux, qui est fait d'anges, de créatures qu'on ne peut pas voir, mais que la Bible appelle des dominations, des autorités, des esprits méchants. Et ces créatures influencent notre monde. On le voit au moins à deux reprises dans l'Écriture. Une fois quand Daniel est visité par l'ange Gabriel qui lui explique qu'il se trouve auprès du roi de Perse et là il y a un combat. Et on ne sait pas exactement quelle est la nature de ce combat, mais on voit que les créatures célestes combattent. Et on le voit aussi dans le ministère du prophète Élisée. Il y a un moment, on se retrouve assiégé par toute une armée. Et le serviteur d'Élisée, Géasi, est pris de panique quand il voit toute l'armée qui entoure la maison. Mais Élisée, lui, reste tranquille. Et il reste tranquille parce qu'il voit l'armée céleste. Il va prier Dieu qu'il ouvre les yeux de son serviteur Géasi pour voir aussi ses armées célestes venues combattre à ses côtés. L'ennemi qu'on a à combattre, c'est pas notre prochain. Si on considère les hommes comme nos ennemis, et quand on dirige contre eux notre colère, on se trompe. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas contre des hommes que nous avons à lutter, pas contre notre prochain. Jacques dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que quand on se met en colère contre quelqu'un, on pêche. Et le Seigneur lui-même, il nous a rappelé que le plus grand commandement, c'est quoi ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il a ajouté, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il y a un seul homme à combattre sur cette terre, c'est soi. C'est soi parce que le mal est en nous et qu'on doit le combattre. Il est écrit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » sûr, il ne s'agit pas de suicide, mais il s'agit de renoncer à soi, d'accepter la croix dans sa vie, d'être crucifié avec Christ. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, quel est l'ennemi ? La parole de Dieu, elle nous dit que c'est le diable. Et elle nous dit que le diable, il vient avec ses ruses. C'est important de connaître l'ennemi qu'on doit affronter, parce que sinon, on va aller combattre avec de mauvaises armes. Et Dieu nous décrit le diable comme quelqu'un de rusé. Il nous dit aussi que c'est un séducteur et que c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Il peut aussi se déguiser en ange de lumière pour tromper. Il se fait passer pour un autre. Et sa tactique favorite, c'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Dans le jardin d'Éden, c'est comme ça qu'il a commencé. Il s'est approché d'Ève, il a dit « Mais Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il faut reconnaître que la question était très bien posée. C'était subtil, la parole de Dieu était à peine modifiée. À peine. Et en altérant la parole de Dieu, il va semer le doute de notre esprit. C'est là où se trouve la ruse. Et il lui arrive d'utiliser la Bible pour nous induire en erreur. Vous vous rendez compte, il l'a même fait avec le Seigneur Jésus. Il a utilisé la parole de Dieu pour essayer de faire chuter le Seigneur. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Le diable peut nous dire, il est écrit, pour nous amener à chuter, à mal comprendre les Écritures. Une autre ruse que l'ennemi utilise, c'est l'épreuve. Et vous connaissez certainement ce passage où le Seigneur Jésus a prévenu l'apôtre Pierre. Il lui a dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Quand le moissonneur, il a terminé sa récolte de céréales, il va les cribler, c'est-à-dire les battre, les passer au tamis et les secouer dans tous les sens avec force pour qu'il ne reste que le grain et que la paille s'en aille. Et l'épreuve, elle agit sur nous un petit peu comme ce crible, on est secoué dans tous les sens au point de plus savoir quoi faire, de plus savoir où regarder. Mais ce qui est rassurant, c'est que le Seigneur Jésus a prié. Il a dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Oui, Satan nous a réclamé pour nous cribler comme le froment, mais le Seigneur a prié pour que notre foi ne défaille pas. L'ennemi nous est aussi présenté comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il rôde, il va tourner autour du troupeau, il va rechercher celui qui est affaibli, il va chercher à l'isoler pour mieux la dévorer. Et c'est ce que fait le diable. Il tourne autour du troupeau pour repérer ceux qui sont un peu affaiblis. Et il va essayer de les isoler et d'éloigner discrètement, doucement, de la sécurité du troupeau. Vous savez, c'est intéressant parce que la parole de Dieu, elle compare l'Église à un troupeau. Et quand elles sont toutes ensemble, les brebis, elles sont plus en sécurité que quand elles sont dispersées. Et on voit que quand il y a un danger, quand elles sentent l'approche d'un danger, les brebis se regroupent toutes ensemble. Elles font front ensemble. Elles se serrent les coudes, si on peut dire. Et quand un chrétien commence à ne plus fréquenter les frères et sœurs, il se met en danger. Il s'éloigne de la sécurité du troupeau, en fait. En fait, c'est un ennemi, le diable, qu'il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas le surestimer non plus. Mais il faut y prendre garde. Il va utiliser plusieurs techniques pour nous déstabiliser. Un coup, il va amoindrir nos fautes, nous pousser vers la légèreté spirituelle, nous dire « Oh, bon, ça, c'est pas grave, hein. Pas grave. » Et puis, l'instant d'après, « Mais oh, tu te rends compte ce que tu viens de faire ? Mais c'est très grave, ça. » Au point que, en quelques coups comme ça, on est complètement déstabilisé, on ne sait plus où regarder, on ne sait plus quoi faire, et on est complètement chancelant. C'est pour ça qu'il est écrit trois fois, hein, dans le court passage qu'on a lu, il est écrit « Tenez ferme ». Le diable, il désire semer le doute dans nos cœurs. Et vous savez, le doute, c'est comme du lierre. Vous avez déjà vu du lierre. Il suffit d'un petit pied de lierre pour... Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ça recouvre tout un arbre, capable d'étouffer même les plus grands arbres. Ça va les vampiriser, ça va les asphyxier. Et il suffit d'un petit peu de doute pour étouffer la foi. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous exhorte et nous dit « Tenez ferme, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé sur un bateau en pleine tempête ? Moi, ça m'est arrivé. Deux fois. C'était pas encore la grosse tempête, mais il y avait un petit peu de houle. Et bah, quand il y a de la houle, le bateau tangue d'un côté, de l'autre. Et si vous essayez de rester debout dans le bateau, c'est bien compliqué dans ces moments-là. Et le doute produit un petit peu le même effet que la houle sur un bateau. Il nous fait tanguer à droite, à gauche. On ne sait plus très bien garder l'équilibre. Et dans ces moments-là, pour ne pas chuter, qu'est-ce qu'on fait ? Dans le bateau, on se cramponne de toutes ses forces à ce qui résiste. Et la plus solide des choses sur lesquelles nous, chrétiens, nous pouvons nous appuyer, vous savez ce que c'est ? C'est l'Évangile. C'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Quand Luc a écrit l'Évangile qui porte son nom, il l'a adressé à un certain Théophile. Et ce monsieur Théophile, il connaissait déjà l'Évangile. Il avait déjà été enseigné, il avait reçu un bon enseignement. Mais Luc lui a écrit pour qu'il reconnaisse la certitude des enseignements qu'il avait reçus. Qu'il reconnaisse la certitude des enseignements qu'il avait reçus. Et la certitude, c'est un mot en grec qui signifie solide comme le bitume, solide comme le roc. Et dans la parole de Dieu, il y en a des paroles qui sont solides comme le roc. 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine, solide comme le roc, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Tite chapitre 3. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Et l'apôtre Paul rajoute, cette parole est certaine, solide comme le roc. Notre seul refuge, ça a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. On voit ça dans Hébreux 6. Et cette espérance, il est dit que nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Vous savez, dans le temple, derrière le voile, le souverain sacrificateur, il entrait une fois par an pour apporter le sang de la victime expiatoire. Et là, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est entré avec son propre sang qui dit « Les péchés sont expiés ». Et cette espérance, elle est ferme, elle est sûre, elle est solide comme une ancre. Vous avez déjà vu une ancre, l'ancre d'un bateau ? Quand j'étais petit, dans la maison de mes grands-parents, il y avait l'ancre d'un bateau dans un coin. Elle était haute comme ça, là. Mais elle était lourde, mais lourde, impossible à déplacer. Impossible, d'une solidité extraordinaire. Et l'Évangile, c'est ça, ce sont des paroles certaines, solides comme le roc. Et on peut s'y réfugier, s'y cramponner quand notre espérance chancelle, quand tout s'écroule, quand on n'est plus sûr de rien. Et dans les armes que Dieu nous donne, il y en a plusieurs. Il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la Bible. On peut lire, relire, méditer, garder dans son cœur. peut l'utiliser pour se défendre et pour tailler en pièces les arguments de l'ennemi. Vous avez remarqué qu'il est dit que ces armes, ce sont celles de Dieu. Et c'est important parce que l'ennemi, c'est aussi l'ennemi de Dieu. Alors il faut le combattre avec les armes adaptées, et elles nous sont offertes par Dieu. Ça m'a fait penser à un passage de l'Ancien Testament, une belle image qui illustre ça. Dans 1 Samuel 18, versets 3 et 4, on lit que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan, c'était le fils du roi. Le fils du roi a donné son manteau et ses armes à celui qui voulait combattre. Et le Fils de Dieu nous donne aussi le manteau de sa justice parfaite. Il est allé à la croix presque nu et il a laissé ses vêtements, sa tunique, son manteau, à ceux qui ne les méritaient pas. Il nous a donné aussi la ceinture de la vérité. C'est lui qui est la vérité. Il est question aussi du bouclier de la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Mais aussi le casque du salut, le salut qui est parfait pour tous ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ. Toutes ces armes, elles sont là pour combattre, mais surtout pour se défendre. Et on voit que Jonathan l'a fait par amour pour David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Combien plus forte raison le Seigneur nous aime, plus que sa propre personne. Il a donné sa propre vie pour nous sauver. Alors, il y a une des pièces de l'équipement dont je n'ai pas parlé encore. Ce sont les chaussures. Il nous donne même des chaussures pour mettre à nos pieds. Et vous savez quoi? Il vient même laver nos pieds avant d'enfiler les chaussures, pour nous débarrasser des souillures qu'on a prises sur le chemin. Et ces chaussures, il est dit que ce sont celles de l'évangile de paix. Du zèle de l'évangile de paix. Est-ce que vous ne trouvez pas étrange qu'au beau milieu de ce chapitre qui nous parle de la guerre, il soit question du zèle de l'évangile de paix? Ah, ça m'a fait réfléchir quand même. Parce que ça nous apprend que c'est un combat, mais que dans ce combat, on combat pour la paix. C'est une guerre pour la paix. Et ce n'est pas la paix avec les puissances des ténèbres, mais c'est la paix avec notre prochain. Jésus a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et ça nous rappelle aussi qu'on fait fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Un ambassadeur, il est là pour garantir la paix. Et le Fils de Dieu, il n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et dans ce combat qu'on doit livrer, parfois, il nous faut lutter pour arracher des âmes des mains de l'ennemi. Alors voilà, on a un petit aperçu de ce conflit. Ce n'est pas une guerre de religion qui oppose les hommes entre eux. Ce n'est pas une guerre de religion qui oppose les enfants de Dieu au reste du monde. Mais c'est une guerre qui voit s'affronter les armées de l'Éternel et celles du diable. Et la parole de Dieu, elle compare souvent les chrétiens avec des soldats. L'apôtre Paul, il disait à Timothée, « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » C'est une guerre qui est difficile. Alors vous avez peut-être déjà pris bien des coups dans cette guerre. L'ennemi vous a peut-être déjà fait tomber un certain nombre de fois. Et peut-être même que vous n'avez pas eu besoin de l'ennemi et que vous êtes tombé tout seul. Vous avez réussi à chuter, à vous faire mal. Alors écoutez la parole du Seigneur qui dit que de la poussière, il retire le pauvre. Celui qui est tombé dans le fumier, il relève l'indigent. Il est écrit aussi que s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Dans un combat comme celui qu'on mène dans la vie chrétienne, on ne peut pas rester à terre, dès qu'on a pris un coup en se disant que c'est trop dur. On peut rester sonné quelques instants, hein, mais Christ nous relève et on continue le combat. Parce que c'est notre vie avec Christ qui est en jeu, et que si on ne combat pas, on est sûr de rien remporter du tout. C'est pas parce qu'on laisse les armes qu'on va éviter le combat. La sanctification, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est une guerre. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais mon combat à moi, c'est pas possible. Celui des autres, oui, ils y arrivent, mais moi, c'est trop dur. Les autres, ils n'ont pas des batailles aussi difficiles que les miennes. Moi, ça m'est déjà arrivé de penser ça. Ça m'arrive encore. Et ben oui, parce que mes combats à moi, c'est quand même pas de la tarte, vous voyez. C'est notre pensée, ça. Mais la parole de Dieu, elle vient nous remettre les idées en place, à moi le premier, en disant: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. C'est vrai que la croix des autres, elle a toujours l'air plus facile à porter. Mais elle n'en a que l'air. Parce qu'en réalité, la croix des autres, elle fait mal aussi. Et la douleur, souvent, c'est à l'intérieur, alors ça ne se voit pas. Alors ça n'empêche pas qu'on peut avoir l'impression d'être complètement submergé par l'ennemi. Point de perdre pied, de plus savoir où donner de la tête, l'impression de se noyer. Et vous savez, il y a un prédicateur un jour qui parlait de ce combat et il disait que dans la vie chrétienne, on a à combattre à gauche, à droite, devant, derrière. Et quand il disait ces choses, quelqu'un dans l'assemblée a crié « Gloire à Dieu, c'est toujours ouvert en haut !» Et c'est pour ça qu'il est écrit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Comme Dieu voudrait qu'on prie davantage. Il sait que notre esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Il sait qu'on est plein de bonnes intentions, mais qu'on ne peut pas les mettre en pratique. Sans lui, on ne peut rien faire. Et vous savez, il y a de grandes batailles qui ont été gagnées uniquement par la prière. Je pense à Moïse. Moïse, il a levé les mains vers le ciel pendant qu'Israël était en train de combattre Amalek. Et des fois, il fatiguait. Et quand il baissait les bras, Amalek reprenait l'avantage. Quand ses mains étaient levées vers le ciel dans la prière, Israël reprenait le dessus. Et finalement, il y a Aaron et Hur qui sont venus l'aider. Ils ont intercédé ensemble jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu. C'est écrit « Tenez ferme après avoir tout surmonté. Allez jusqu'au bout de ce combat. » Et vous savez, dans 2 Rois, au chapitre 13, les questions de la fin de la vie du prophète Élisée. Et il y a un roi d'Israël qui est venu le voir, le roi Joas. Et Élisée lui a dit: prends des flèches et tape sur le sol. Et Joas a tapé 3 fois contre le sol. Et Élisée s'est emporté, mais il lui a dit: mais il fallait taper 5 ou 6 fois pour que l'ennemi soit complètement vaincu. Maintenant, tu ne vas le battre que 3 fois. C'est une image de la foi persévérante dans le combat. Dans ce combat, Jésus a dit qu'on peut prier en son nom. Il nous a donné l'autorisation de prier en son nom, comme si c'était lui qui priait le Père. Par lui, on peut s'approcher du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La prière est une clé de la victoire. On peut demander à notre Père de nous donner la victoire sur le diable parce qu'il est déjà vaincu. Jésus l'a dépouillé, lui, toutes les armées. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Certainement parce qu'il sait qu'on a tendance à se décourager facilement quand on ne voit pas l'exaucement de nos prières. Il sait qu'on a tendance à se dire « Dieu ne m'exaucera pas ». Mais si la prière est aussi un combat, il ne faut pas oublier de le mener jusqu'au bout. Il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Et je voudrais terminer avec ce verset de 2 Corinthiens 2,14 qui nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». Nous allons prier ensemble.